Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droit et citoyenneté.
Droit
et citoyenneté.
La portée juridique des accords et traités internationaux sur les lois locales. Droit et citoyenneté se penche sur cette thématique au moment où un débat défraie encore la chronique autour de l'accord qui lie la RDC à la Communauté de l'Afrique de l'Est, CAC. À l'instar de tant d'autres, où textes comme ceux de Maputo, le statut de Rome, de l'organisation de la SADC, etc., ratifiés ou non par la RDC illustrent ce débat citoyen. Quelle est la portée juridique de tous ces textes par rapport à nos lois?
Est-ce que ces textes ont la primauté sur notre constitution? Est-ce que la RDC peut se retirer immédiatement de la communauté des États de l'Afrique de l'Est sans conséquence? Est-ce que seul le président de la République peut engager l'intérêt national en signant un accord ou traité international?
Voilà ce qui forme la problématique de ce magazine citoyen de promotion de vos droits et devoirs.
Droit et citoyenneté est coordonné par Jeff Ngoï Moulonda et présenté avec Niklette Kayeye.
Sous la supervision de Jean-Marc Matouakino Felele. Bienvenue à tous.
La portée juridique des accords et traités internationaux sur nos lois locales. Avant tout, suivons ces réactions de diverses personnalités du monde politique qui exigent le retrait pur et simple de la RDC de la CAC, plaidant pour la SADC. Rappelons que les populations du Nord Kivu ont eu même à manifester dans la rue contre la présence des forces régionales de l'EAC sur le sol congolais à cause de son inaction face aux atrocités du M23. On écoute.
DIPRO est pour le retrait pur et simple de la RDC de l'EAC. Sinon, c'est accordé 2 mois avec des assignations précises aux troupes de la région de l'EAC pour rétablir la paix, faute de quoi les faire partir. Donc nous ne savons pas pourquoi nous devons continuer à entretenir notre présence au sein de l'EAC à partir du moment où ces troupes ne parviennent pas à rétablir la paix à l'est du pays.
Merci au ministre de la Défense, à l'état-major de notre force armée d'avoir répondu à notre invitation. Nous prendrons contact avec le commandant suprême des forces armées pour faire rapport de nos entretiens et présenter des propositions au nom de la représentation nationale. Nous saluons l'adhésion de notre pays à la communauté de l'Afrique de l'Est. Cependant, si dans un délai raisonnable, les forces régionales n'arrivent pas à nous soutenir contre l'agresseur et qu'ils se complaisent à soutenir ou à aider nos ennemis, nous demanderons au commandant suprême des forces armées pour qu'il prenne la décision qui s'impose. Notre pays doit s'assumer. Ce n'est plus le moment où nous devons laisser les chefs de l'État seuls travailler. Nous soutenons les bons éléments de notre forces armées. Ceux qui trouvent qu'ils ne peuvent pas rendre service aux forces armées, qu'ils tirent les conséquences.
Francine Muyomba, bonjour.
Bonjour, Michel.
Et je reviens toujours sur ma position concernant la SADC, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a un peu de sincérité du côté SADC. Aujourd'hui, l'Afrique de l'Est, je ne pense pas du tout que cette communauté nous apportera de solutions.
Comment expliquez-vous que ce pays a déjà été aidé par une armée de la région, notamment la SADC? Là, vous aviez applaudi, et ce qui est incompréhensible, c'est qu'une autre armée de la région, notamment de l'EAC, vient nous aider et vous trouvez que ça ne marche pas. Qu'est-ce qui motive votre position?
Ma position est motivée du fait que dans la communauté de l'Afrique de l'Est, c'est là où se trouvent les détracteurs de la République démocratique du Congo et c'est là où se trouvent les agresseurs de la République démocratique du Congo. Donc, si nous cherchons des solutions, nous ne pouvons pas aller vers celui qui est, bien entendu, dû à la base de la souffrance des Congolais.
La population de Goma manifeste contre cette force de EAC et au cours de ces manifestations, il y a eu des dérapages, notamment une église a été attaquée, mais aussi un convoi des casques bleus des Nations Unies. Comment analysez-vous le soulèvement de la population?
Protester, c'est un droit constitutionnel, mais il faut le faire dans la paix et éviter la violence.
Après ces appels au retrait de la RDC de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, nous recevons à présent le praticien du droit. Juriste, enseignant de droit et magistrat émérite, explique la portée juridique des accords et traités internationaux par rapport à nos lois. D'abord, maître Jean-Marie Kabengela Ilunga, avocat au barreau de Kinshasa Matete, en parle avec Jeff Ngoy.
Droit et citoyenneté parle aujourd'hui de la portée juridique des accords et traités internationaux ratifiés par la RDC, ce qu'ils peuvent avoir comme valeur juridique sur nos lois. Maître Jean-Marie Kabengela Ilunga, si la RDC ratifie un accord ou un traité international, que peut être sa valeur juridique?
Merci beaucoup, Jeff. Je profite pour saluer les auditeurs de la Radio Okapi, Radio de la Paix. Réagissant à votre question, il doit être noté qu'en vertu de l'article 215 de la Constitution, les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont de leur publication une autorité supérieure à celle de loi, sous réserve pour chaque traité ou accord de son application par l'autre partie. Donc, cela veut dire qu'un accord ou traité international peut être soit bilatéral, soit multilatéral. Ça peut être un accord signé entre États ou entre États et une organisation internationale. Alors, une fois que ce traité ou accord est régulièrement conclu, cet accord, ce traité, prend la valeur juridique supérieure aux lois. Il y a une tendance qui pense que un traité ou accord international régulièrement ratifié aurait une valeur supérieure même à la Constitution. C'est à quoi nous disons non, pour la simple raison que s'il y a accord, s'il y a un traité, il ne peut être conclu, ratifié qu'en vertu de la Constitution. Donc on ne peut pas remettre la valeur juridique supérieure de la Constitution par rapport au traité, alors que c'est la Constitution elle-même qui donne pouvoir de conclure et de ratifier. Souvent, il se pose, même suivant le constituant, la question de savoir quid quand le traité ou accord à ratifier a des clauses contraires à la Constitution. La Constitution elle-même résout la question en disant tel traité ou accord international ne peut être ratifié qu'après la révision de la Constitution. C'est là où l'opinion qui pense que les traités ou accords international aurait une valeur juridique supérieure à celle de la Constitution, on passe par là. Or, la révision, la modification de la Constitution, c'est pour permettre à ce que, quand le traité qui est conclu, qui sera ratifié, vient à s'insérer dans l'arsenal juridique d'un État, notamment l'arsenal juridique de la République démocratique du Congo, que ce traité ou accord international ne trouve pas des dispositions constitutionnelles qui bloqueraient son applicabilité par la RDC.
La portée juridique des accords et traités internationaux. Maître Jean-Marie Kabengela Ilunga.
D'effet de votre intervention, vous avez parlé de la régularité, s'ils sont ratifiés en toute régularité, et leur primauté sur la Constitution est nulle, ils n'ont pas de primauté sur la Constitution. En termes de régularité, pour qu'ils soient réguliers, qu'est-ce qu'il faut?
Il faut d'abord reconnaître quelle est l'autorité étatique qui a conclu. En principe, la Constitution, l'article 213, alinéa 2, dit ceci. Le gouvernement conclut les accords internationaux non soumis à ratification après délibération en Conseil des ministres. Il en informe l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc, ici, on désigne quelle est l'autorité qui peut conclure les accords internationaux qui ne sont pas sujets à ratification. Alors, par exemple, si un traité ou accord international est conclu par une autorité autre que le gouvernement, ça devient un accord ou un traité irrégulier. Si un accord ou traité international a été conclu sans que le Conseil des ministres en ait délibéré, ça devient irrégulier. Si un accord a été conclu après que le Conseil des ministres en ait délibéré, sans que l'Assemblée nationale et le Sénat en soient informés, ce traité-là, quoique conclu après délibération du Conseil des ministres, ce traité-là devient irrégulier. En tant que tel, il ne pourra pas, cet accord ou traité ne pourrait pas avoir l'autorité, même pas sur les lois ordinaires de la RDC. Parce que pour bénéficier de l'autorité juridique supérieure à celle de nos lois, le constituant, à travers l'article 215, dit « Les traités et accords internationaux régulièrement conclus. » Donc, il faut insister sur l'adverbe « de manière régulièrement conclue ». Donc, si un traité, un accord est irrégulièrement conclu, il ne peut pas avoir l'autorité juridique sur les lois internes. Au-delà, si un traité ou un accord international, quoique régulièrement ratifié, quoique régulièrement conclu, n'est-ce pas, mais se trouve ne pas être appliqué par l'autre partie, parce que la disposition constitutionnelle dit sous réserve pour chaque traité ou accord de son application par l'autre partie. Donc il y a là ce que on appelle en jargon juridique exception d'inexécution, exceptio ad plenti contractus. Donc, en tant qu'acte synalagmatique, un accord pour son observance par l'une des parties, la partie à laquelle on réclame l'exécution peut soulever l'exception d'une exécution en ce que l'autre partie au traité ou accord ne l'a pas appliqué. En ce moment-là, cet accord ou traité ne peut pas avoir l'autorité sur les lois internes.
Est-ce que ça ne viole pas le droit international qui dit que les traités internationaux ont primauté sur nos lois?
Bon, il faut faire la part des choses. On sait que sur le plan, sur le plan de la législation internationale, il y a des règles qu'on appelle les règles de jus cogens, ceux qui établissent l'ordre public international, les règles auxquelles aucune dérogation n'est permise. Notamment, la communauté internationale s'est engagée à abolir l'esclavage. Alors, tout accord, toute loi qui remettrait sur la scène de la vie humaine l'esclavage, ce sont des traités ou accords, même des lois qui sont censés ne pas exister. Et donc, tout accord, tout traité qui remettrait sur la scène de la vie humaine l'instauration de l'esclavage, ce sont des lois qui entrent en conflit avec une norme internationale, la norme de jus cogens. Donc, une norme internationale à laquelle aucune dérogation n'est permise. Donc, pour les règles de jus cogens, toutes les constitutions, toutes les lois des États, tous les accords et traités internationaux doivent, pour leur existence, ne pas violer les règles de jus cogens. Par exemple, la vente ou la mise en commerce de la viande humaine. On ne peut pas marchander. Donc, prendre la viande humaine et puis la mettre en circulation. Les attentats contre l'aviation civile. Donc, les règles de jus cogens privilégient la vie humaine qui est sacrée. Alors, tout accord ou toute loi qui dirait, bon, moi je me retire du système des Nations Unies, par conséquent, je deviens État souverain, je me retire, ne m'oppose plus les règles internationales qui interdisent l'esclavage, qui interdisent le commerce de la chair humaine. Cet État-là va engager sa responsabilité internationale, non pas parce que cet État-là se serait retiré d'un accord ou traité international, mais parce que sa législation interne ou sa constitution entre en conflit avec une norme suprême, une norme de jus cogens. Voilà.
Et lorsqu'on a ratifié, on est lié, on ne peut plus se désengager.
Il y a toujours dans les accords internationaux ainsi que dans les traités la clause de réserve. Il est toujours prévu qu'un État qui s'engage puisse souscrire à une réserve. Mais encore, il faut revenir sur la question de jus cogens. On ne fait pas de réserve sur les règles de jus cogens. Donc, si vous voulez faire des réserves dans la signature ou dans la conclusion d'un traité international, vous n'allez pas vous réserver sur, par exemple, la notion d'esclavage, l'institution de l'esclavage. Aujourd'hui, tous les instruments juridiques internationaux ont aboli la peine des travaux forcés. Et puis, il y a le mouvement d'abolitionnisme qui lutte pour l'abolition de la peine de mort. Donc, il y aura, quand les États concluent, négocient les traités, vous pouvez émettre de réserve, sous réserve, que votre réserve ne portera pas sur les règles de jus cogens.
Et vous voyez, tout le monde parle de l'accord de l'EAC, auquel la RDC a adhéré. On dit que cet accord porte atteinte à notre souveraineté. On peut céder une partie du territoire. Quel est votre point de vue?
Ce sont des mauvais esprits qui ne se donnent pas la peine de lire la Constitution. J'ai appris qu'il y a des apprentis sorciers qui font des commentaires dans tous les sens sur la question, sans lire la Constitution. Le président de la République ne conclut pas les accords. C'est le gouvernement, avec ce que prévoit l'article 214.
La question dit qu'il est le son.
Là, d'abord,
il représente la
régularité d'un traité, c'est la forme selon laquelle un accord, un traité international est adopté. Je vous ai parlé de l'autorité compétente en matière de conclusion. Le président de la République, selon l'article 213, négocie. Et quand il négocie un accord, un traité international, il ne conclut pas. Dès que les termes de l'accord du traité international à mettre en place sont arrêtés, il y a le gouvernement, via l'article 213, alinéa 2, qui entre en mouvement. Non seulement le gouvernement va conclure, mais il est dit le gouvernement ne conclut qu'après débat au Conseil délibéré en Conseil des ministres. Cela ne suffit pas. Il y a l'information à donner au Parlement, les deux chambres. Vous avez compris que pour la ratification d'un accord, d'un traité international, le président de la République intervient en aval. En amont, il peut arrêter les termes de référence. Mais ce qui conclut, ou l'entité qui conclut, ce n'est pas l'institution président de la République.
Ce n'est pas lui qui engage la RDC avec sa signature.
Non, c'est la ratification. Ratification, ça veut dire, oui, c'est bon. C'est comme en matière de loi, le président de la République promulgue les lois. Mais les lois sont adoptées par le Parlement. Et lui vient en aval promulguer. En termes d'accords et traités internationaux, le président... Donc, toute chose restant égale par ailleurs, ratifie. C'est comme s'il promulguait. Et après cela, vient l'étape de la publication au journal officiel. Donc, toutes les institutions de la République sont concernées, tant par la négociation, conclusion, la ratification, la publication au journal officiel. Pourquoi le Constitution a mis ça dans notre Constitution? C'est pour que, même là où telle institution peut se tromper, telle autre peut...
Corriger
en disant non, non, c'est pourquoi vous avez trouvé certaines lois, une fois arrivé à la présidence, ça peut faire retour au Parlement pour une seconde lecture, quand le président de la République constate que ça a été mal adopté, que telle disposition est entrée en conflit, soit avec la Constitution, soit avec une norme juridique antérieure.
Et lorsqu'on parle de l'unité nationale et que cette unité est menacée et que c'est lui le symbole de l'unité, quelle est sa responsabilité?
Le président de la République, comme disait Mobutu, n'est pas un magicien. Chaque institution, chaque animateur d'institution doit jouer sa partition. Le président de la République ne prendra pas une arme, le char, l'hélicoptère pour aller faire la guerre à l'Est. Il n'a pas été formé pour ça. Et même si il a été formé comme militaire, les fonctions qu'il exerce ne lui permettent pas de prendre l'arme et de tirer. Ne lui permettent pas de voler à bord d'un hélicoptère pour aller bombarder. Donc, chaque institution doit jouer son rôle. Et nous avons vécu, nous sommes en train de tous suivre l'engagement sans équivoque du président de la République qui veut la paix. La paix par tous les moyens, mais il y a également des gens qui sont nés avec l'esprit de faire la guerre, qui se nourrissent de sang. Et à plusieurs reprises, il a répété que la posture qu'il a, ce n'est pas une posture de naïveté, c'est une posture de sagesse pour que ceux qui ont la belligérance dans le sang comprennent que la guerre, l'on peut savoir quand elle commence. On ne sait pas comment ça peut finir et qui peut être victime de cette guerre. Si de l'autre côté, ça donnait le pouvoir à celui qui est là maintenant, nous parlons du Rwanda, on ne gagne pas deux fois dans une guerre. On ne gagne pas. Vous avez gagné contre une population dont vous avez tué le leader Hutu, mais quand vous élargissez maintenant votre champ de combativité, l'inconnu peut vous surprendre.
La portée des accords et traités internationaux sur nos lois, leurs valeurs juridiques. Nous recevions Maître Jean-Marie Kabengelonga.
Après Maître Jean-Marie Kabengela Ilunga, Jeff Ngoy reçoit Maître Edmond Bokolo Elima, enseignant à la faculté de droit de l'UNIKIN et avocat au barreau de Mbandaka.
Pour répondre à la préoccupation relative à la force d'un accord international ratifié par la RDC, spécialement le traité pour l'établissement de la communauté d'Afrique de l'Est, EAC, il convient ici de répondre que, conformément à l'article 215 de la Constitution de la RDC, tel que révisé à ce jour, les traités et les accords internationaux régulièrement conclus ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord de son application par l'autre partie. En effet, le retrait de la RDC de l'EAC doit impérativement répondre aux exigences de l'article 145 du traité instituant cette communauté sous-régionale, notamment le traité sur l'EAC tel que modifié en date du 14 décembre 2006 et du 20 août 2007. De ce fait, l'RDC est libre de se retirer au dit traité, mais après avoir scrupuleusement observé la procédure prévue à l'article 145, toujours rappelé, dont l'inobservance entraîne inéluctablement des sanctions graves votées par le sommet des chefs d'État, d'une part, et d'autre part, la condamnation par la Cour de justice de l'Afrique de l'Est. Cette procédure relative au retrait de l'EAC doit être faite à des niveaux. Premièrement, l'Assemblée nationale, la Chambre basse du Parlement, la RDC, doit, au cours d'une plénière avec un quorum de 2/3 des députés nationaux, voter une résolution exprimant l'intention du pays de se retirer de cette communauté. Après ce vote, le gouvernement congolais doit à présent notifier au secrétariat général de la communauté son intention d'y retrait dont le délai que moi j'appelle préavis, dont le préavis à observer obligatoirement est de 12 mois avant le retrait effectif. Pour ainsi dire que sur la RDC, si aujourd'hui la RDC, notre pays, le chef de l'État ou le gouvernement envisage de se retirer au traité de l'EAC, le pays doit observer ce qui vient d'être dit précédemment. Et il faut noter que pendant cette période, donc 12 mois qui suit la notification au secrétariat général de l'EAC, le pays, la RDC, sera tenu aux obligations ou engagements comme tout autre État partie du traité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si la RDC, sur le président ou le gouvernement, notifie après avoir reçu la résolution de l'Assemblée, aujourd'hui, si on notifie le secrétaire général de l'EAC, nous devons observer tous les engagements, tous les accords, toutes les résolutions qui ont été votées par les sommets des chefs d'État de l'EAC, notamment l'envoi d'une troupe à l'est du pays ou certains engagements à caractère financier. Donc, c'est une obligation. Donc, aujourd'hui, cela ne veut pas dire que si nous exprimons notre intention de se retirer, on notifie automatiquement les éléments de l'EAC, de la communauté de l'Afrique de l'Est, qui sont à l'est du pays, doivent se retirer ipso facto aujourd'hui. Non, c'est pas comme ça. Donc, aujourd'hui, si on notifie, nous sommes au mois de février, si on notifie aujourd'hui, par exemple, donc le retrait effectif, et la RDC va cesser d'être débiteur de cette communauté au plus tard le mois de février 2024. Et durant les 12 mois, la RDC doit répondre à ses engagements, c'est-à-dire respecter les accords ou les engagements pris au sein de la communauté d'une part, et d'autre part, répondre aux exigences prévues par le traité de l'EAC. Pour ainsi dire que l'arrêt brusque des engagements entraîne des sanctions graves, telles que je l'ai dit précédemment. Le président de la République est seul compétent, au regard de l'article 213 alinéa 1er de la Constitution, de négocier et rectifier les traités et accords internationaux soumis à la ratification. Ces traités et ces accords sont cités à l'article 214 de la Constitution du pays, dont notamment les traités de paix, les traités de commerce, les traités et accords relatifs aux organisations internationales, dont notamment l'EAC, et au règlement des conflits internationaux, les traités qui engagent les finances publiques, les traités qui modifient les dispositions législatives internes, les traités qui sont liés à l'état des personnes, c'est-à-dire que les traités qui touchent par exemple les règles du code de la famille, les traités qui emportent échange et adjonction du territoire ne peuvent être ratifiés, approuvés qu'en vertu d'une loi. C'est-à-dire que pour prouver, pour ratifier ou approuver un traité lié à l'échange ou à l'adjonction des territoires, là, il faut la loi, c'est-à-dire qu'un acte législatif voté par le Parlement, par les deux chambres du Parlement. Exceptionnellement, parce que nous venons de dire que seul le chef de l'État est habilité à ratifier, à signer les accords internationaux, sauf pour les accords ou les traités internationaux qui touche la jonction du territoire national. Et aussi, il faut souligner que certains accords internationaux non soumis à la ratification, à la procédure de ratification, sont conclus par les gouvernements, mais après délibération au Conseil des ministres. Pour ainsi dire que la RDC est contrainte de rester à l'EAC tout au long de la période de préavis de 12 mois après la notification de son retrait au secrétariat général de la communauté d'Afrique de l'Est, EAC. Et la RDC doit répondre à ses engagements vis-à-vis de la communauté. Il est loisible de préciser que les traités de l'EAC n'y prévoient pas un examen de la demande de retrait. L'article 145 se limite à parler seulement sur le vote de la résolution par la Chambre basse du Parlement, suivi de la notification au secrétaire général, ce qui a comme conséquence, après avoir observé ces deux phases, c'est-à-dire que la résolution et la notification, le retrait est effectif automatiquement, ipso facto, après l'écoulement d'une période de 12 mois. Donc ici, il n'est pas question de pouvoir attendre un examen de la demande. C'est différent avec d'autres organisations, parce que chaque organisation internationale ou sous-régionale a les traités comme acte constitutif. C'est ce qui constitue la boussole. Et la boussole de l'EAC nous dit que si un pays se retire, il suffit seulement que la résolution soit votée par les deux tiers qui composent le Parlement, les députés nationaux. Et après cette résolution, le gouvernement doit notifier au secrétaire général et observer un préavis ou un délai de 12 mois. Cela ne veut pas dire que lorsque on dépose la notification, lorsqu'on notifie ou on dépose la notification du retrait, l'EAC doit se réunir, les membres de l'EAC, c'est-à-dire que les pays doivent se réunir pour décider du retrait ou pas d'un État du traité. C'est pas, la procédure n'est pas comme ça. En tout cas, l'article 45, qui est d'ordre public, est vraiment explicite. L'article est explicite et clair. Aussi, le président de la République a signé, a ratifié ce traité. À ce jour, ce traité a la primauté sur les règles du droit interne. Et c'est en vertu de l'article 215 de la Constitution qui prévoit que les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord de son application par l'autre partie. À notre avis, un traité ne peut aucunement être supérieur à la Constitution, parce que l'article 215 ne cite pas la Constitution. Et cet aspect de choses divise les juristes. Il y a certains juristes qui pensent que les traités et accords internationaux ont la primauté sur la Constitution. Mais la classe que moi je soutiens est que l'article 215, état d'ordre public, ne cite pas la Constitution. La Constitution n'est pas une loi. la Constitution a un statut sui generis. C'est-à-dire qu'un traité ou accord international ne peut être supérieur à la Constitution. D'où, s'il existe aujourd'hui, si le pays décèle des textes, des dispositions incompatibles avec la Constitution, des dispositions qui emportent certaines règles de la souveraineté du pays, à mon avis, j'ose croire que le pays a tout intérêt de pouvoir se retirer. Le pays doit se retirer. Dès lors que le pays a ratifié sur le plan international, ses engagements sont exigés. Je ne saurais pas dire ici que dès la détection, dès que le pays découvre qu'il y a certaines dispositions incompatibles, le pays doit automatiquement arrêter ses engagements. Non. Parce que c'est un engagement pris. Donc le pays doit continuer à répondre à ses engagements. Mais le pays doit maintenant envisager, d'ailleurs c'est une cause plausible pour le Parlement de voter la résolution pour que le pays se retire. Et moi, j'ose croire que c'est de l'appréciation des autorités publiques. Le retrait de l'EAC, il faut seulement voir quelle est la mission, parce que la question qui se pose, c'est par rapport à la brigade, aux éléments envoyés à l'est du pays. Il faut seulement voir. Est-ce que dans la résolution qui a été votée par les sommets du chef de l'État, il était question que ces éléments puissent combattre ensemble avec nos forces armées? Si c'est oui, c'est-à-dire que ces éléments ne produisent pas des résultats. Si c'est non, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire que le pays se retire de l'EAC. Donc le retrait, les engagements du pays, ce sont les engagements de haute facture, ne peuvent pas être annulés à la rue. Voilà pourquoi les autorités y réfléchissent. Le chef de l'État réfléchit nuit et jour à ce sujet. Et à mon avis, je ne trouve pas d'inconvénient de pouvoir demeurer dans cette organisation sur le journal. Mais si aujourd'hui les autorités publiques, les chefs de l'État, les gouvernements, l'ensemble décident de pouvoir manifester, imprimer notre intention de se retirer, moi, en tant que bon citoyen, en tant que juriste, je pense que je vais m'aligner dans cette logique. C'est parce que c'est conforme à la loi. C'est conforme à la Constitution, voire même à l'esprit du traité qui organise cette organisation sous-régionale.
Bébé, Mototo Ashaba, Kamata Nusso, Lakini, Oache Nusso.
Bibi l'oiseau raro, salinga vraiment nini, bibi.
Oli mwesa ni mewa chosirema,
manashara,
kate kamateza lasi.
Bibi,
pangase, papisite.
Huberti Bangani.
Bibi l'oiseau, ça l'inga vraiment nini. Bibi,
terre de mon calenda. Ibrahim Chako.
Transkin International. Toute la ville en parle. Depuis à Santena.
Je suis
pour
Chantal Perle Noire, et des bisous Moukengiri.
Réponse n'a yon a zéli l'encore à Yoko.
Mimi Chematin.
Maman Yoko batte la kamaya kousouté. L'okite maye kopa ou kola l'isala.
Maman Tina le magne.
Radio Okapi offre un espace pour la promotion des valeurs de la démocratie et du respect de l'autre. Élections, droits de l'homme, droits civiques et politiques, nous en parlons dans votre magazine. Mieux connaître vos droits pour bien défendre, mieux connaître vos devoirs pour bien les accomplir. Retrouvez Jeff Ngoyi tout le mardi
La portée juridique des accords et traités internationaux. Nous en parlons dans le magazine de promotion de vos droits et devoirs. Réaction maintenant des magistrats émérites Nicolas Kedinshimba.
D'abord, qu'est-ce qu'on appelle un accord, un traité international? Quelle différence y a-t-il entre les deux, accords et traités internationaux?
L'accord, c'est une convention qui intervient entre deux ou plusieurs personnes sur un objet bien déterminé. Et cet accord peut intervenir entre deux personnes comme il peut intervenir entre deux ou plusieurs États. En réalité, il n'y a pas de différence entre un accord et un traité international. C'est pratiquement la même chose. Parce que nous nous entendons sur une chose et nous nous engageons en acceptant de faire des concessions de part et d'autre. Et ici, permettez-moi d'entrer en détail pour vous faire voir que, en ce qui concerne les accords et traités internationaux, la communauté internationale, où les hommes sont appelés à vivre en symbiose, de vivre en communauté, de vivre ensemble, et pour faciliter certaines choses, la protection des biens et des personnes, les commerces, les déplacements, ainsi que la défense. Et quand deux ou plusieurs États se mettent ensemble, ces États s'engagent à renoncer à certains de leurs droits. Par exemple, sur le plan douanier, les citoyens d'un autre pays peuvent entrer dans l'autre sans chercher nécessairement des visas. Ils ont le droit de vivre dans tel ou tel autre pays sans être dérangés. Ils peuvent faire les commerces comme s'ils étaient des citoyens de ce pays-là. Donc, l'État renonce, par exemple, à ce droit d'assise, les droits d'entrée, les droits de sortie sur le plan douanier. Où il accepte de concéder une partie de ses droits. Et on peut aussi accepter de céder certaines parties de ses attributs de la souveraineté parce qu'on veut rester en communauté. Vous voyez, par exemple, quand on est...
Au nom de l'union, de l'unité africaine.
Voilà. Non, je ne parle pas seulement de l'unité africaine. Je parlais d'une manière générale.
Dans le cadre de l'accord...
Des accords, des traités...
C'est par exemple, communauté de l'Afrique de l'Est.
Non, non. Je crois que quand on suit le chef de l'État, il a toujours dit ceci. La RDC ne cédera jamais un seul centimètre carré de notre territoire. Je sais que quand vous suivez ce qui s'est dit sur les traités, les réseaux sociaux, on dit n'importe quoi. Et on attribue aux gens ce qu'ils n'ont même pas dit. Aujourd'hui, nous avons accepté les forces de ces pays-là, à part les pays qui nous agressent. Ces forces-là viennent chez nous. Nous ne cédons pas notre souveraineté, mais nous cédons la défense. Donc, ce que nos forces de sécurité nationale devaient faire, elles cèdent ça à cette force pour assurer et notre sécurité et la sécurité des voisins. Cela ne veut pas dire que nous avons renoncé à notre territoire. Non! Nous gérons notre territoire, mais il y a des gens que nous avons invités et que nous acceptons chez nous pour qu'ils exercent certains attributs sur le plan sécuritaire.
Donc la primauté d'un accord international ou bien un traité international, il n'y a pas seulement l'accord avec la CEAC, il y a aussi la SADC, il y a aussi le statut de Rome, avec la CPI, il y a les accords de Maputo. Je prends par exemple la disposition sur l'avortement des femmes qui doit être un avortement médicalisé, donc autorisé par un médecin. Il y a par exemple la lutte contre la peine de mort. Du point de vue du droit international, les traités internationaux a primauté sur nos lois.
Oui, vous soulevez un problème important que les politiciens, pour des raisons qui leur sont propres, essaient d'ignorer, tout en sachant que c'est la vérité. L'article 215 de notre Constitution accorde la primauté aux accords et traités internationaux sur notre droit interne. Et la Constitution le prévoit parce qu'elle accepte aussi que quand on a déjà négocié, quand on a signé et quand cet accord est ratifié par le Parlement, nous devons nous y soumettre. En ce moment-là, par exemple, le traité de l'OADA, la loi national se soumet à ce traité. Donc, vous ne pouvez pas procéder, par exemple, à la procédure d'urgence en appliquant la loi nationale.
Magistrat émérite Nicolas Kedishimba, comment réagissez-vous à toutes ces manifestations qui s'observent à travers le pays, bon, notamment dans le Nord Kivu, où les gens manifestent contre la présence de la force régionale de la CAC en RDC, qu'on trouve inoffensive, certaines personnalités politiques plaident pour la SADC.
Je peux d'abord vous dire ceci. Dans toutes ces histoires, il faut former la population. Une fois, vous m'avez posé des questions sur la justice transitionnelle. Si quelqu'un ne connaît pas ses droits, il peut être facilement manipulé. Vous savez que l'ennemi, quand il nous combat, lui, il vient pas main vide. Il a les armes, il a aussi l'intoxication. Si vous avez suivi ce qui s'est passé hier à Addis Abeba, vous allez voir qu'il y a eu un mini-sommet de l'Afrique de l'Est auquel notre président a participé, même le président rwandais a participé. Mais le président de la République démocratique du Congo a présenté tous les éléments qu'il fallait. Voilà pourquoi nous devons être là. Il a présenté tous les éléments qu'il fallait et tout le monde a été unanime à reconnaître qu'il y a eu beaucoup de légèreté. Maintenant, ils doivent se retirer. S'ils ne se retirent pas, la force internationale qui est là, ou la force de l'Est qui est là, elle doit passer à l'offensive. Mais si notre président n'était pas là, s'il n'était pas accompagné de ses experts, mais les autres allaient gober ce que l'ennemi, notre adversaire, allait dire.
Comment peut-on passer à une étape offensive lorsque vous composez avec l'agresseur?
Vous ne m'avez pas laissé terminer parce que vous m'avez demandé comment j'ai réagi face à ce qui se passe à l'est de toutes ces manifestations. Mais toutes ces manifestations, c'est pas parce que la force là n'a pas réagi, mais c'est parce qu'il y a la main noire. Même l'adversaire agit sur la mentalité frustre de notre population, sur l'ignorance. Il y a même des politiciens qui s'élèvent pour dire n'importe quoi. La SADC, nous étions toujours là même à l'époque de Kabila. Mais ces gens du M23, ils étaient où? Ils étaient là. Pourquoi ils s'étaient retirés? Est-ce qu'ils s'étaient réellement retirés? Non. Ils étaient là, en loup, habillés en agneau. Ils étaient là. On leur avait cédé une bonne partie du territoire qu'ils géraient. Et une seule communauté pouvait gérer toute la partie de l'est du pays. Donc, allez-y comprendre quelque chose. En réalité, il est dit que si tu veux la paix, il faut préparer la guerre. Les autres peuvent venir chez nous, mais c'est nous qui devons nous battre.
Et nous recevions Nicolas Edi Chimba, magistrat émérite. Voilà, nous venons de vous entretenir avec les professionnels de la loi sur la portée juridique des accords et traités internationaux. Droit et citoyenneté est donc terminé. Merci de votre aimable écoute et bonne suite de nos programmes.
Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droit et citoyenneté.
Droit
et citoyenneté.